Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Souvent, le problème qu'ont les indépendants, c'est qu'ils se disent « j'ai envie d'aller dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde et surtout refuser aucun client ».
Moi, j'ai quitté la banque, j'ai quitté 10 ans de bons et loyaux services. C'était pas pour faire un CDD de 3 mois sur Instagram, donc il fallait trouver un positionnement durable.
Le positionnement, c'est une carte du marché où tu vas dire le prix, je suis plus ou moins premium, plus ou moins max, et après, tu vas te positionner par rapport à des besoins.
Il faut être clair dans ce qu'on propose, et quand on commence à proposer plusieurs choses et à ne pas être clair sur son positionnement, ben forcément, les gens n'ont pas confiance.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver dans l'épisode 2 de la saison 4 du podcast des indépendants sur BFM Business. Et aujourd'hui, on va parler positionnement parce que le positionnement en matière de business, c'est vital. Le positionnement, c'est un peu votre singularité. C'est ce qu'il va falloir assumer pour gagner plus d'argent. Vous allez tout comprendre après avoir écouté cet épisode avec, comme à chaque fois, 4 super invités.
Première invitée, Caroline Mignot, la numéro 1 du marketing en France. Caroline a cofondé l'agence Personnelle, premier studio de personal branding français. Après avoir positionné des marques à New York pendant 8 ans, elle accompagne aujourd'hui les entrepreneurs qui veulent mieux se marketer et mieux se vendre. L'agence Personnelle, c'est plus de 400 mètres carrés de studio à Paris et des centaines d'entrepreneurs accompagnés. Deuxième invité, Clovis Henriot, connu sous le nom du télétravailleur et créateur de contenu et conférencier. Ancien cadre du secteur bancaire, il s'est fait connaître par ses vidéos qui tournent en dérision les absurdités du management et de la vie de bureau. Il est aussi le fondateur de Bullshit Lab, un label satirique autour du monde du travail, et l'auteur de Bien cordialement dans ta gueule, un guide de survie en entreprise à paraître fin avril. Troisième invitée, Marie Dardérolle, fondatrice de l'agence MDS Marketing et Digital. Marie conjugue l'exigence stratégique des grands groupes comme L'Oréal ou LVMH, où elle a été salariée, à l'agilité des marques retail, food, mode et luxe qu'elle accompagne. Son métier, transformer les visions en résultats concrets et opérationnels pour un positionnement clair. Quatrième et dernière invitée, Alexia Rodier, fondatrice de la première agence de homestaging en France en 2008. Alexia est spécialisée dans la valorisation de biens immobiliers haut de gamme à Paris. En 2025, l'agence a réalisé 48 projets de homestaging sur des biens vendus entre 1 et 10 millions d'euros. Elle est également à la tête d'une académie de homestaging qui a déjà formé plus de 250 professionnels.
Bonjour à tous.
Salut Ludo.
Merci d'être ici pour parler positionnement parce que je l'ai dit en introduction, c'est absolument vital, c'est essentiel. C'est aussi une affirmation de soi et une clarification de ce qu'on propose pour vraiment attirer les clients plus facilement et gagner plus. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qu'est le positionnement, il y a quelque chose qui m'a marqué en préparant cet épisode. C'est une anecdote d'Alexia qui me disait « Moi, mon positionnement, j'ai mis 17 ans à le trouver. » Donc ça peut prendre plus d'une décennie.
Alors, c'est plus que... C'est pas 17 ans à le trouver, c'est qu'il a évolué en 17 ans. Parce que forcément... Le marché évolue, les clients évoluent, j'ai évolué, enfin j'espère. En 17 ans, il faut se réadapter en permanence. Donc, c'est pas que j'ai mis 17 ans à le trouver, mais il a évolué et il va continuer à évoluer.
Et quand on parle, Clovis, justement, de recherche de positionnement, toi, c'est aussi un peu la même chose. Aujourd'hui, on te connaît pour le télétravailleur. C'est une satire du monde du travail.
Ouais.
C'était pas ça avant, quoi. T'as testé plein de trucs et tu me disais en préparant, bah, c'est en testant, c'est en trouvant que là, ça marchait, là, ça marche pas moins bien, etc., que j'ai pu vraiment trouver mon positionnement.
Oui, c'est clair. Et puis, c'est surtout en me perdant un petit peu dans ce que j'étais pas, pour employer une expression un peu bizarre, que j'ai fini par me réconcilier avec ce que j'étais. En fait, le positionnement, c'est parfois la difficulté qu'on a à se positionner, c'est qu'il faut, il faut être un peu vrai, il faut être un peu authentique. Et donc, on passe, en tout cas, moi, je suis passé par des étapes où je donnais le change, j'ai trouvé des personnages pour me cacher derrière, et je me suis rendu compte que mon positionnement authentique et celui que j'arrivais à défendre le mieux, bah, c'est quand je parlais de ce que j'avais vraiment vécu, c'est-à-dire mon expérience dans le monde du travail.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment c'est l'alignement. Ouais. Le positionnement, en fait, tu te rends compte qu'il est faux. Si tu n'es pas aligné, en fait, c'est toujours ce que tu ressens. Mmh. Marie ?
Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand tu fais du marketing pur jus, à la base, produit, dans des boîtes comme L'Oréal ou LVMH, le positionnement, c'est une carte du marché où tu vas dire le prix, je suis plus ou moins premium, plus ou moins masse, et après, tu vas te positionner par rapport à des besoins. Aujourd'hui, quand tu regardes les entrepreneurs, et c'est exactement ça, c'est que c'est devenu ce que t'es à l'intérieur qui va faire que, quel que soit le service, le métier ou le produit que tu proposes, tu vas être légitime, tu vas parler à une cible qui te parle et qui va se reconnaître en toi, et pas à tout le monde où tu vas te perdre, et tu vas raconter ton histoire, et là, il n'y a que des gens y compris toi, qui représente ça sur le plateau, parce que tu es plus légitime quand tu as une histoire qui correspond à ce que tu vas vendre.
Ça, c'est du personal branding, mais au-delà du personal branding, moi, je trouve que c'est le positionnement. Est-ce que ce n'est pas aussi dans ta communication toujours d'avoir, tu as un produit, tu as une cible, tu as une problématique, et en fait, elle se répète dans tes contenus, la manière de le faire, plutôt que de partir, de se disperser, en fait, Caro.
Le positionnement, ça doit être l'étape numéro un, et souvent, le problème qu'ont les indépendants, c'est qu'ils se disent, j'ai envie d'aller dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde et surtout refuser aucun client. Et je pense que ça, c'est ce qui fait que pendant des années, c'est un peu l'errance que décrit Clovis. On répond plus aux besoins des autres qu'à notre besoin à nous. On se dit, bah finalement, je sais pas trop qui je suis, donc j'ai qu'à faire un truc qui fait plaisir aux autres. Et on finit à la mauvaise place et on met des années à se dire, en fait, ce qui me rend heureux, c'est de dire non à 99% des demandes que je reçois et faire ce 1% qui me rend heureux et faire ce 1% jusqu'à ce que ça marche vraiment. Ça, ce sacrifice-là, c'est pas tout le monde qui en est capable, mais ceux qui en ont fait l'expérience, en général, ils disent qu'ils seraient jamais prêts à retourner en arrière.
Et qu'est-ce qui fait, concrètement, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on a un mauvais positionnement ?
Alors pour moi, il y a 3 signaux. Le premier, c'est on comprend pas ce que vous faites. Donc ça arrive, tu te pitches, t'es indépendant, et même ton client idéal, les bras lui en tombent, à la fin de la démo, il se dit « j'ai pas tout compris à ce que fait ce mec ». Le deuxième élément, qui va tous nous parler aussi, c'est on nous compare avec quelqu'un qui fait pas du tout ce qu'on fait. Ah mais oui, t'es un peu comme machin. Et on se dit, mais non, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Et la troisième chose, c'est que le client, il voit pas pourquoi payer. Et ça, c'est un stigmate de tu n'es pas sur une douleur suffisamment puissante. La douleur, elle est pas bien identifiée. Le mec se dit, bah pourquoi je passerai par ce service ? Et il te dit, à l'année prochaine, oui, je vous recontacterai, il signe jamais. Ça, pour moi, c'est les 3 signaux qui font que même si ton offre, tu te dis, tous mes clients sont contents, même si t'as du talent, même si t'as 10 ans d'expérience dans ce que tu fais, bah, tu n'es pas en adéquation avec ton marché. Et donc, il faut mieux arrêter. Et même si tu gardes les murs, il faut changer la peinture. Il faut adopter un nouvel angle d'approche pour vendre peut-être le même service. D'ailleurs, c'est l'histoire d'Alexia.
Alexia, justement, du coup, tu te dis à un moment donné, bah, je renonce, même si vraiment intérieurement, c'est ce truc-là, j'ai envie de faire tout ça. Mais en fait, je ne peux pas parce qu'en fait, le message n'est pas suffisamment clair ou alors je n'ai pas suffisamment de clients, quoi, en fait.
J'ai renoncé, en effet, très récemment, puisque c'était il y a 2 semaines. J'indiquais des choses, j'ai une académie, je forme également au home staging et ce que je disais à mes élèves, je ne l'appliquais pas à 100% pour moi. J'ai décidé d'appliquer à 100% pour moi. Il se trouve que j'ai une formation d'architecte d'intérieur, mais que mon expertise est beaucoup plus dans le home staging aujourd'hui. J'ai décidé d'arrêter officiellement, je le dis, l'architecture d'intérieur. Je délègue, on va dire maintenant. Ça a disparu de mon site internet, de mes propositions, de mes éléments de langage, parce qu'il y a un moment, il faut être clair dans ce qu'on propose. Souvent, on parle du restaurant qui fait pizza, kebab, sushi. Voilà, ça ne fait pas confiance. On a plutôt envie d'aller manger des sushis dans un restaurant qui ne fait que des sushis. Et quand on commence à proposer plusieurs choses et à ne pas être clair sur son positionnement, ben forcément, ça ne fait... les gens n'ont pas confiance.
Et il n'y a pas de rentabilité. Et en fait, l'exemple qu'on a tous en tête... et qui est facilement testable, c'est le médecin généraliste. Citez-moi un médecin généraliste qui est plus cher qu'un spécialiste, même un spécialiste d'un tout petit truc. Donc en fait, si vous voulez faire évoluer aussi la valeur perçue de ce que vous faites, vous avez intérêt à dire non à 90% des clients et à prendre peut-être que le 1% du marché que vous dominez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la meilleure ruse pour un entrepreneur qui veut se positionner facilement, c'est trouver dans quel domaine il est vraiment le meilleur, le numéro un. Même un tout petit marché, ça va faire augmenter votre valeur perçue et vous allez pouvoir vous pricer beaucoup mieux et beaucoup mieux vivre que quelqu'un qui veut répondre un peu à toutes les demandes, le fameux médecin généraliste.
Ça fait penser à ce que t'écris, enfin, ce que tu m'as partagé en préparant cet épisode, Clovis. Le positionnement, c'est l'art de choisir qui tu déçois, en fait.
Oui, c'est un peu ça. Finalement, en décidant de ne pas adresser tout le monde, c'est finalement assez précieux et c'est finalement assez généreux. Moi, quand j'ai arrêté de faire de l'humour sur tous les sujets et que je me suis dit que je faisais la satire du travail, ça a en fait répondu à pas mal de questions. Mon positionnement était devenu assez clair. Et les gens qui m'attendent sur d'autres sujets m'ont pas encore envoyé de message.
Ce que je trouve hyper intéressant avec ton exemple, Clovis, c'est qu'on a une super stratégie de positionnement à travers l'exemple de Clovis. Parfois, on est entre 2 thématiques qui nous plaisent. Et Clovis, il a toujours eu un peu 2 amours. C'est 1, le monde corpo. Bullshitland, qu'il a toujours singé dans sa vie privée aussi.
Il l'a représenté d'ailleurs sur ce plateau en arrière-plan.
Bienvenue à la défense.
Un poisson dans l'eau.
Et à côté de ça, l'humour. Le spectacle, le stand-up, qui était un peu ce que tu faisais pendant ta vie. Et en fait, finalement, c'est un peu la théorie du donut. On a des donuts aux États-Unis, ça a toujours été un item à 1 euro. C'est ultra peu cher. Et du coup, tu peux pas vendre un donut à 7 euros. Par contre, si tu marketes un cronut,
un croissant donut, bah là, en fait, tout d'un coup, tu deviens le meilleur de ta catégorie. Mmh. Tu crées ta propre catégorie. Et c'est ce que Clovis a fait. Clovis, il était dans un entre-deux, entre un début de création de contenu qui lui a pété entre les mains et ce monde du travail qu'il connaissait par cœur, qu'il adorait, qu'il détestait en même temps. Et finalement, il a réuni les deux mondes. Et pour tous ceux qui ont deux passions, parfois, moi, je trouve que c'est un super bon exemple de créer, en fait, une espèce de valise comme ça dans sa vie, avec finalement, je réunis deux trucs que j'aime pour faire une catégorie inédite. Pour moi, c'est ta niche explosive et c'est là où vraiment ce que tu as fait a explosé, c'est quand tu as fait de l'humour sur le monde du travail, tu as réuni ces deux univers et ça t'a pété entre les mains, quoi.
Effectivement, c'est, moi, je préfère le broki, personnellement, le brownie et le cookie, mais se positionner sur des choses qu'on aime, qu'on connaît, pour pouvoir prendre du recul dessus. Enfin, moi, je ne suis pas entrepreneur comme vous et pas aussi expert du sujet que vous, mais je remarque quand même quelque chose. Quand on est sincère, c'est qu'on a suffisamment d'expérience et suffisamment de recul sur cette expérience pour pouvoir apporter une hauteur de vue. Et souvent, les entrepreneurs, ils donnent des conseils. Enfin, les solutions qu'ils proposent à leurs clients, c'est des solutions de prise de recul. J'ai ce regard extérieur que je vais apporter à votre activité, à votre business, ce que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes le nez dans le guidon.
Ouais.
Bah, moi, mon positionnement, c'est ça. C'est le recul de 10 ans d'expérience dans le Mordor Corporate, mais à l'extérieur du Mordor. C'est-à-dire que j'ai quitté maintenant mon entreprise et j'ai cette liberté de ton. Je suis embauché par personne à part par moi-même. La place que je...
Elle est légitime et elle est claire.
Elle est légitime, mais surtout, elle est au bon niveau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'entreprise. Ça ne fonctionnerait pas. Le positionnement, c'est pas simplement le sujet et la solution que tu proposes. C'est aussi d'où tu la proposes. Et
là, il faut être indépendant, en gros.
Ouais. Oui. Oui, c'est pas et écouter le podcast des indépendants, tout est lié.
Ouais. Et si, tu vois, c'est un super bon exemple parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein d'humoristes qui crèvent la dalle. Et aujourd'hui, quand tu crées ta niche et quand tu trouves un truc, pour tous ceux qui se disent « mais j'ai pas d'expertise », trouvez ce dont vous aimez parler. Tèche par texto, c'est un compte Instagram. La nana, elle s'est dit « en fait, quand je raconte mes galères de dating, mes copines, elles sont mortes de rire ». Mais en fait, c'est peut-être ça, votre spécialité. C'est un truc que peut-être vous faites dans votre vie privée sans vous rendre compte que vous êtes assis sur de l'or. Aujourd'hui, cette nana-là, elle a envie de sa passion de raconter des anecdotes de merde sur le dating. Tu vois, je trouve ça important de dire parfois « il y a de la compétence là où on pense qu'il n'y en a pas aussi ».
Moi, j'entends ce que vous dites, mais ce que je me dis aussi, c'est que ceux qui nous écoutent et qui doivent renoncer à des activités qui leur parlent quand même, qui leur fait du chiffre d'affaires, et ils se disent bah ok, donc l'idée c'est de devoir renoncer. C'est compliqué quand même, hein, cette question de renoncement, Marie.
Moi, c'est un peu différent parce que je suis salariée à la base depuis très très longtemps, que ce soit chez L'Oréal, chez LVMH, dans Groupe Etam, etc. Ça fait un an que j'ai opté pour une trajectoire mixte, à fractionner mon activité en me disant je reste dans la chaleur du CDI avec l'entreprise, avec tout ce qu'il y a autour, et je me teste et je cherche mon positionnement pendant un an pour justement me lancer et être en entreprise. Et pour revenir exactement à ce que tu dis, c'est qu'il y a des choses qu'on fait tellement naturellement où on se dit bon, ben, je suis bonne, mais ça paraît tellement évident, surtout quand c'est des choses comme le marketing qui sont des soft skills, que tu te dis pas que en fait c'est exactement là que tu devrais être et tu devrais te positionner. Donc moi, j'ai mis un an à me dire je fais un peu de tout, je fais du marketing, je fais de l'image, je fais de la direction artistique, du positionnement marketing et du digital, jusqu'à ce que tu te dises en fait non, elle est où ta force exactement, elle est d'aller chercher dans les marques parce que tu viens de grands groupes, de donner à des gens justement ce qui vient des grands groupes, la méthodo, la puissance, la force, et de l'adapter en fonction de ce que tu as fait dans ta vie, la mode, le luxe, etc., et d'aller te positionner. Et c'est marrant parce que ça paraît évident, mais au bout d'un an, tu as une épiphanie en disant bah, « en fait, il faut que j'explique mon pitch, c'est exactement qui je suis, ce que j'ai fait, et c'est ça que j'apporte, mais de façon beaucoup plus resserrée, parce que si tu veux faire comme avant, comme tout le monde, en fait, tu parles à personne, tu parles à tout le monde, tu parles à personne. »
Ce qui est hyper intéressant aussi dans l'exercice du pitch, c'est que je trouve que quand tu pitches un truc qui est bien positionné, qui est clair et qui est aligné, c'est tellement plus facile. C'est tellement plus évident. Tu trouves plus les mots, tu es beaucoup plus à l'aise, tu es plus en confiance, ça se ressent. Tu es aussi plus en confiance quand tu fais du contenu. Si tu fais du contenu sur une activité sur laquelle tu sais que tu es bien positionné, c'est aussi un bon indicateur, Caro.
En fait, ça irrigue tout dans ton business, le positionnement. Ça permet à tes commerciaux de recevoir un pitch facile à faire et à exécuter face au client. Ça te permet d'avoir une stratégie de contenu qui est évidente. En fait, encore une fois, imaginez que vous êtes au service d'un médecin généraliste et que vous devez lui créer du contenu. Il y a à boire et à manger, vous savez pas trop de quoi parler. Par contre, si vous bossez pour un dentiste, bah tout d'un coup, les mots-clés, ils sont évidents. Et faire une stratégie de contenu, c'est beaucoup plus facile quand on adresse un problème. Et il y a aussi autre chose dans la stratégie de contenu qui pêche beaucoup chez les indépendants, c'est de ne pas parler de votre solution, de vous passionner pour le problème. Parce qu'on a fini de voir avoir des postes qui nous vendent à chaque fois des solutions miracles. Les gens n'en ont plus rien à faire. Dans la guerre de l'attention, parlez du problème et partez du problème. Et ça, souvent, c'est le problème des entrepreneurs. Ils se disent, bah, moi, je veux absolument refiler ma solution. Et typiquement, quand on a une Alexia en face de nous, qu'est-ce qui est intéressant pour Alexia ? D'aller chercher le problème de sa cible. Mmh. Le problème de sa cible, c'est pas qu'ils veulent bien décorer leurs apparts.
C'est qu'ils n'arrivent pas à le vendre.
Ça reste trop longtemps sur le marché et du coup, ils perdent des sous.
Donc, son positionnement, c'est vendez plus rapidement et plus cher votre appartement.
Alors, c'était mon positionnement avant, mais ça a évolué parce que depuis plusieurs années, je suis positionnée sur l'immobilier haut de gamme et luxe.
Vendez votre appartement très cher alors.
Donc, c'est plus les mêmes standards. Non, c'est même pas ça. Ouais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose, c'est les codes du luxe, quelque chose qui est rapide. Ils ne veulent pas les détails, ils s'en fichent. Eux, ils veulent que ça soit facile, un peu comme quand on arrive dans un hôtel 5 étoiles, notre promesse correspond à une cible.
Bah toi, Clovis, t'interviens sur... J'imagine que t'as des clients qui sont assez éclectiques.
Oui, une clientèle assez éclectique, mais quand même assez homogène. C'est-à-dire que les entreprises qui viennent à moi sont en général des entreprises d'une taille certaine, qui ont atteint une taille critique. Voilà, myriade de process.
Oui, mais ça reste assez large, tu vois, par rapport à un positionnement cible hyper précis. Je le précise parce que pour ceux qui nous écoutent, ils se posent quand même la question, ok, merci pour vos conseils, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir une typologie précise de clients ?
Ça dépend du problème que t'adresses. Solution va d'elle-même faire le tri sur la cible que tu adresses. En fait, soit tu veux adresser tout et tout le monde, et dans ce cas-là, tu vas avoir un problème de positionnement, ou alors tu décides que ta solution répond à un problème très simple, mais qui concerne tout le monde, ou alors c'est une solution très niche aussi, mais qui concerne très peu de personnes.
Sachant qu'aujourd'hui, tu es dans un marché qui est tellement riche, je te prends un exemple, les coachs. Tout le monde devient coach. De coach de naissance, coach, je me retrouve après 50 ans de vie dans l'entreprise, coach parce que j'ai envie de passer ma passion, etc. Quand tu vois un marché rempli de coachs, tu ne sais pas vers qui il faut aller. Et justement, tu as des exemples. Moi, je connais quelqu'un qui est une coach qui allait chercher dans sa vie à 50 ans. Elle s'est fait sortir des grands groupes, justement, les L'Oréal, etc. Et elle s'est retrouvée un peu en se disant, ben, j'ai rien à côté, je n'ai pas écrit de livre, je n'ai pas forcément monté des passions, etc. Le fait de s'être retrouvée dans cette situation-là, elle a regardé le marché. Elle s'est rendue compte que des gens de 50 ans plus qui sortent du marché, il y en a des milliards, ce sont des gens qui ont de l'argent, donc c'est là aussi où tu te positionnes un peu premium parce que tu peux te faire des tarifs un peu importants. Et elle s'est dit, je vais parler à ces gens qui sont seniors pour les préparer, pour leur dire qu'ils ont du potentiel, pour leur dire qu'ils peuvent faire plein de choses. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, bah, du coup, quand tu as 50 ans plus ou quand on te rapproche et que tu vois cette fille-là, tu te dis, elle est légitime, elle me parle et on en revient à elle te parle de ton problème. T'en as d'autres qui vont se positionner plutôt pour les champions, pour les sportifs, parce qu'eux-mêmes sont comme ça. Et c'est là que tu te dis, bah, moi, c'est pas mon âge, ça, c'est pas mon problématique, ça, c'est pas ma trajectoire. Et tu vas les trouver dans un marché où tout le monde se ressemble, quelqu'un qui te paraît plus pertinent, qui te paraît plus juste et surtout que tu vas payer plus cher.
Ok, donc il faut accepter d'être frustré et de faire des choix. C'est un peu ça, c'est la clé du positionnement en fait. Hein.
Et surtout, plus tu dis non, plus ton oui vaut cher. Et c'est applicable à tout dans la vie. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand Clovis disait c'est généreux de dire non parce que du coup, ton oui a beaucoup plus de valeur. Mmh. Et c'est valable pour tout, pour les créateurs de contenu. Quand un créateur de contenu fait 10 000 collabs, est-ce que tu as la même perméabilité d'attention quand il te parle d'un produit qu'il aime vraiment ? Bah non, malheureusement. Mmh. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ta valeur, c'est déterminée par tout ce à quoi tu as décidé de dire non. Et je pense que ça, c'est important de le dire. C'est ça qui fait grossir ta valeur perçue. Mmh. C'est ça qui te permet justement de te spécialiser, de rester dans ta zone de génie, de derrière pouvoir déléguer. Parce que c'est pareil, si tu fais plein de choses et que tu recrutes un bras droit, tu as un deuxième mouton noir dans ton entreprise qui fait un petit peu tout et c'est facilement le désordre. Pour moi, il y a un petit peu 4 étapes dans le positionnement. D'abord, c'est ton audience. À qui est-ce que tu t'adresses ? Marie disait, bah moi, c'est du high ticket. Ensuite, tu vas avoir le secteur. Est-ce que tu accompagnes des boîtes qui sont des boîtes de luxe, de mode, de l'immobilier, des entreprises, des corpos, entreprises du CAC 40. Ensuite, tu as les résultats. Qu'est-ce que tu permets d'obtenir ? Est-ce que c'est gagner du temps ? Est-ce que c'est doubler ses revenus ? Est-ce que c'est vivre plus longtemps en meilleure santé ? Et puis derrière, tu as la singularité. Ça, tu n'es pas obligé de l'appliquer. Mais plus on va avoir d'IA dans notre vie et d'AI slop, plus on va devoir cultiver notre singularité. Qu'est-ce qui, chez nous, est vraiment différent dans notre approche ? Et ça, je pense que les entrepreneurs qui ont compris justement comment est-ce que leur approche, leur méthode est différente, ils ont tout gagné pour la suite. Et c'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus de labels. On parlait de personal branding, ce qui est en train d'exploser, c'est les méthodes propriétaires. La méthode Uncanny, le massage Renata Franca. Plus tu vas labelliser tes méthodes, plus finalement ça va devenir un gage de confiance et tu vas créer un vrai concept et pas juste être un parmi des millions.
Est-ce que toi, t'as senti, Alexia, depuis que t'as repensé ton positionnement, tu sens une amélioration sur tous les points qu'on a évoqués ?
J'en avais longuement parlé justement justement avec Caroline de ce problème de repositionnement, de toujours évoluer en même temps que l'entreprise et le marché. Et c'est vrai que depuis 2 mois, j'ai vraiment repositionné, c'est-à-dire que j'étais claire concernant le positionnement haut de gamme. J'avais peur en fait de dire non, je ne peux pas vous prendre, vous n'avez pas le budget ou vous ne correspondez pas aux standards maintenant de l'agence. Maintenant, c'est clair et net, ils viennent ou ils ne viennent pas, les clients. À partir de là, il y a des clients en effet qui se sentaient peut-être un peu perdus parce que c'est pas qu'il y avait à boire et à manger, mais c'est-à-dire que je m'adressais à tout le monde, mais maintenant que je ne m'adresse qu'à eux, il y en a pour qui le discours est beaucoup plus clair et qui viennent.
C'est hyper important et ça veut dire que ça marche. Concrètement, ça veut dire que tu as aussi changé ton accroche, ton discours commercial,
tout. Là, hier encore, j'ai envoyé à la personne qui gère mon site internet, il y a des nouveaux éléments de langage. Maintenant, il va y avoir des nouveaux visuels, une autre manière de communiquer. J'ai une community manager, enfin j'ai une équipe pour la communication. Donc, je suis en train de rebriefer tout le monde sur ce positionnement nouvelle vague.
Donc ça veut dire faites des choix du coup, c'est vraiment l'idée, c'est
oui,
choisissez,
mais pour moi
quoi.
Tu parlais de renoncement tout à l'heure, pour moi c'est pas un renoncement, c'est plutôt un choix. C'est un choix, pour moi c'est pas un renoncement, c'est choisir ce qui est le mieux pour nous et aussi pour ses clients.
Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, c'est pour ça c'est trop intéressant que tu dises aussi tu es plus heureuse, parce que les chiffres c'est bien, mais en vrai on connaît le gros malus des indépendants, c'est qu'on a tellement peur de pas avoir à la fin du mois suffisamment de croissance, tout ça, que parfois on a tendance à se mettre au mauvais endroit.
Ouais.
Et je pense que le bon positionnement, c'est aussi le truc où tu vas durer longtemps. Et cette fameuse question, est-ce que tu préfères aller vite ou durer longtemps ?
Ouais.
Et je pense que le positionnement, c'est aussi ça. C'est pas que du revenu, c'est aussi finalement comment est-ce que tu lisses pour
Bien
pouvoir
sûr.
Durer longtemps et pas te cramer au bout de quelques mois d'activité.
Et être le plus clair possible, parce que quand on est clair dans sa tête, en effet, comme dit Caroline, il y a tout qui en découle, que ce soit la communication, la manière, on croise quelqu'un qui ne nous connaît pas, qu'est-ce que tu fais ?
C'est
tout
facile.
Est, on déroule, quoi. C'est pas un pitch qu'on a appris, c'est tout est aligné.
C'est limpide. Je ne sais plus, Clovis, si tu nous as dit en début d'épisode comment est-ce que tu en es venu à devenir le télétravailleur. Tu as fait plein de sujets, c'est ça, en vidéo, au début.
Oui, avant d'être le télétravailleur, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je faisais du stand-up, j'avais plusieurs personnages. Je reviens à ce que je disais en début d'émission, où je suis passé par plusieurs personnages qui m'ont permis de découvrir avec quelle voix j'allais être le plus sincère. Et surtout, Carole disait... comment on va durer sur un sujet.
Je sais c'est pas, vraiment ça, la question, c'est comment tu dures aussi.
Comment tu dures,
ouais.
Enfin, je suis beaucoup moins entrepreneur que vous et j'ai moins ce côté, je sens autour de la table que la discussion, elle est autour des enjeux business et c'est bien normal.
Bienvenue sur BFM Business.
Non, mais j'adore. Mais j'ai vraiment l'impression d'être invité à une réunion pour laquelle je n'ai absolument aucune valeur ajoutée à apporter. Ça me rappelle quand même largement mon métier d'avant. Moi, j'ai quitté la banque, j'ai quitté 10 ans de bons et loyaux services. C'était pas pour faire un CDD de 3 mois sur Instagram. Et donc, il fallait trouver un positionnement durable et une voie que j'allais pouvoir utiliser pour documenter des sujets qui m'intéressent, qui me touchent et qui touchent aussi des gens. C'est-à-dire que le positionnement, je l'ai construit aussi avec la résonance du message. Et je ne sais pas si dans le business, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que notre offre, elle évolue avec nos clients. J'imagine que oui, il y a des offres évolutives.
Mais c'est pour
pas.
Ça, hein, le parallèle, il est là. Hein.
Mais en tout cas, voilà, moi je sais que mes contenus, par exemple, ils évoluent sur la forme.
Ouais.
J'ai professionnalisé un petit peu les productions, sans que ce soit forcément Hollywood. Hein. J'ai voulu professionnaliser un petit peu les formats et la forme, mais le message est toujours le même. Les sujets sont les grands marronniers de l'entreprise, que ce soit les évaluations annuelles, les demandes d'augmentation, les relations interpersonnelles. Bref, toutes ces thématiques et ces sujets qui résonnent pour les uns et les autres. Mais plus ça va et plus je me dis que pour durer, l'entreprise étant de plus en plus loin pour moi, parce que là, ça fait déjà 2 ans que je l'ai quitté, est-ce que j'aurai toujours cette même fraîcheur ?
Tu veux peut-être élargir les sujets.
Sans doute. Là, par exemple, je suis père de 2 enfants. Je me dis que le sujet de la famille, ça peut être aussi un bon marronnier. Il y aurait des choses, à mon avis, assez marrantes à raconter là-dessus.
Je pense que sur le positionnement, tu vois, tu peux rajouter en fait des branches. Quand tu as développé un premier positionnement clair et que tu t'es amusé dedans, tu dis, tiens, là, il y a aussi un autre truc. Tu viens d'avoir un enfant. Tu te dis, waouh, il y a un potentiel entre la réalité de ce qu'on dit, ce qu'est être parent et ce que c'est dans les faits.
Ouais.
Et ça peut se... Voilà, petit à petit, tu rajoutes des branches, en fait.
Bien sûr.
Il faudra quand même que Clovis, selon moi, reste dans l'ADN du télétravailleur.
Ouais.
C'est-à-dire que ça va être la famille, mais au télétravail.
Ouais.
Ce serait dommage de garder cette ombrelle et derrière que les gens se disent, on n'a pas trop compris parce qu'on l'a suivi pour ça.
Mmh.
Et on parlait de promesses au début, et c'est valable pour les entrepreneurs et leurs services, comme pour les créateurs et leurs audiences. Il y a vraiment cette
de promesses. Et je pense c'est ta racine. C'est ça qu'il va falloir, pour moi, en tout cas, tenir sur la durée. Après, tu le déclines autant que tu veux. Et très intéressant aussi, le positionnement fait naître de nouvelles opportunités, parce que quand il y a un trou sur le marché, il y en a un. Toi, par exemple, tu as ton livre. Donc, il y a un éditeur qui dit, bah tiens, même cette thématique-là, elle nous manque dans le marché de l'édition. Mmh. Donc, c'est aussi comme ça, je pense, que tu te renouvelles en allant sur d'autres formats.
Et je remarque d'ailleurs que c'était pas tant le sujet qui n'était pas couvert, mais c'était plus l'angle sur lequel le sujet pouvait être abordé. Et ça, on n'y avait pas forcément
pensé. C'est quoi le titre de ton livre ?
En exclusivité, effectivement, sur BFM Business, je sors mon livre qui s'appelle « Bien cordialement dans ta gueule ». Rien que ça, qui va paraître aux éditions Alizio fin avril. Donc, je suis très excité de ce projet qui est un peu l'aboutissement et un peu tout le travail. J'ai jamais autant bossé sur un projet. Donc je suis vraiment ravi que ça sorte et de le partager bientôt avec vous.
Et alors, du coup, ça va parler de quoi ? Alors là, c'est des produits dérivés, puisque ton positionnement, c'est le télétravail, ça cartonne sur les réseaux, et donc t'ajoutes des cordes à ton arc, finalement.
Ouais, c'est un autre exercice, c'est un autre terrain d'expression. Moi, mon premier amour, c'est l'écriture, que ce soit sur Twitter en 180 caractères ou sur Instagram avec des vidéos de 45 minutes à 1 minute et demie. On peut pas forcément tout dire, et puis il faut que ce soit percutant sur un format de livre, mais qui est quand même un guide, hein, le guide de survie, un guide de survie en entreprise. C'est un format qu'on a voulu à la fois romancer, mais aussi ludique et actionnable pour celles qui ont voulu finir leur mail par bien cordialement dans ta gueule et qui se sont faim d'un bien à vous.
Oui, puis c'est plein de bienveillance, bien cordialement dans ta gueule.
Je trouve pas bien clair sur la promesse.
Ben, ça dépend si vous signez votre mail comme ça. Si vous signez juste bien cordialement, ça va, et que vous pensez dans ta gueule, ça va très bien. Mais c'est justement de ça que ça traite. C'est-à-dire que c'est la dissonance qu'il y a entre le langage qu'on emploie au quotidien dans nos mails, dans nos interactions professionnelles, et ce qui se passe dans nos têtes. C'est-à-dire
le
sous-texte. Et ça bouillonne. Oui. Et donc ce livre, c'est vraiment le sous-texte.
Et là, c'est aligné parce que télétravailleur, tu vois, sur ce que tu fais, tu vois, c'est de dire la vérité, quoi. Pour revenir à la question du positionnement, c'est redoutable. Important, parce que tu dis, Marie, on n'attire pas ses clients par sa promesse, on les attire par sa trajectoire. Si la trajectoire, elle n'est pas bonne, elle n'est pas cohérente, bah c'est juste, ça ne prend pas, quoi.
C'est tout ce que tu fais, le positionnement. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce que tu disais, c'est comment tu choisis, à qui tu parles, ce que tu offres, etc. Mais ça va avec. Si tu dis, j'ai une offre plutôt premium et luxe et que tu n'es pas cher, ça ne marche pas. Si tu dis, je suis plutôt luxe et tu communiques tout le temps, le luxe est un peu plus rare, tu vois, quand tu regardes les maisons de luxe, etc. Donc, en fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait se ressent. Donc, c'est pour ça que je parle de trajectoire, parce que là, on parle de trajectoire. En fait, tout se ressent de par ton vécu, donc tu es légitime. Ça sent le vrai, ça sent. Et puis, du coup, tu es authentique. C'est pareil pour toi. Tu es venu des États-Unis et tu es venu implémenter des techniques que tu avais vues, des comportements et même des façons de faire. Parce que les vidéos, le personal branding, c'est hyper américain. C'est même anticulturel en France à la base. Donc, il y a la trajectoire de ce que tu es, de ce que tu as fait qui t'amène là et qui te rend pertinent et légitime, voire l'autorité. Et après, il y a ce que tu fais. Parce que s'il y a une dissonance entre ce que tu racontes et comment tu te comportes toute la journée,
ça se sent, ça se voit.
Ça se voit, ça se sent. Et du coup, on se dit, ben, je voulais du luxe, sauf que ça ne correspond pas parce qu'elle offre aussi des choses qui sont mass market, parce que le comportement n'est pas là. Ça va jusqu'à la façon de t'habiller, de te comporter
et on n'y croit pas.
Communiquer. Et on n'y croit pas. Et du coup, on est en porte-à-faux, on n'a pas confiance et on part en se disant, ben, écoute, elle m'a promis ça et c'est pas ce que j'ai retrouvé.
Caro, j'ai l'impression quand même que si on trouve son positionnement et si surtout on a le courage de l'affirmer et de faire des choix, ça peut être un game changer, comme on dit.
Oui, et je pense qu'il ne faut pas en faire un sujet trop romantique. Ce truc de trouver le positionnement un peu comme le grand amour.
L'alignement intérieur.
Tu verras. En fait, je pense que le premier truc, ça m'a parlé quand Clovis disait qu'il faut un peu se perdre. Je pense que c'est très exploratoire et les meilleurs marketeurs, c'est juste des gens qui n'ont pas peur de faire des tests. Donc, il faut vraiment apprendre à désapprendre et se dire, OK, ce n'est pas trouver mon positionnement, c'est je vais explorer plein de trucs. Je vais comprendre dans quoi je suis bon. Je vais comprendre ce dont le monde a besoin et je vais essayer tout simplement de faire un truc que les gens veulent. Et le gros défaut des entrepreneurs, et particulièrement les indépendants, parce qu'ils se lancent en disant « oui, j'ai envie de faire mon truc, une boîte à mon image », et ça peut être parfois un énorme piège, tu le sais Ludo, de se dire, d'avoir cette vision trop romantique. Pour ceux qui se disent « je veux absolument vendre tel type de truc », j'ai une phrase que j'adore qui dit « vends-leur ce qu'ils veulent, mais donne-leur ce dont ils ont besoin ». En fait, votre client, il veut acheter un truc précis. Vous savez que peut-être c'est une connerie. Mais on s'en fiche de votre avis. Parce que si vous voulez durer en tant qu'entrepreneur ou en tant que comique, il faut répondre aux besoins du marché. Malheureusement, le système, il fonctionne sans nous. Donc, soit on va dans le sens du système et on comprend ce que les gens veulent acheter, soit on reste seul contre tous, incompris, mais il ne faudra pas aller se plaindre derrière. Donc, moi, mon conseil, c'est dites-vous simplement, arrêtez de vous passionner pour votre solution, explorez le problème, allez checker partout comment est-ce que vous pouvez aider les gens. Et le positionnement, il va venir comme ça, en faisant, pas en attendant, en répondant à des workshops, en faisant des cours de marketing. Vraiment, genre, rendez service aux autres et vous allez voir le positionnement arriver. Et repensez à l'histoire de Tej par texto, qui est une nana, bah, en fait, elle se fait chier dans sa vie. Oui. Mais dès qu'elle raconte ses anecdotes de dating, les gens sont morts de rire. Clovis, c'était pareil. Marie aussi. En fait, tout le monde avait une passion et qui se disait, mais j'ai envie d'être réveillée, j'ai envie de faire ça. C'est ça dont le monde a besoin et c'est ça que les gens me demandent en MP, en privé. C'est pour ça que les gens m'appellent. Il y a une traction. Allez-y.
C'est vrai que parfois, c'est en faisant que tu te rends compte de ce qu'il faut faire. Ouais. Enfin, tu savais pas forcément. Moi, je vois par rapport à mon offre, j'en avais aucune idée. Je m'étais dit, je dupliquais le CDI. Je me suis dit, bah voilà, je travaille pas le vendredi, je vais avoir une personne tous les vendredis et je vais aller toujours au même endroit. Et puis, tu as des gens qui t'appellent et qui te disent, moi, c'est en one shot. Là, tu fais un workshop. Ah, c'est pas mal le workshop. Ça leur coûte plus cher en one shot. Moi, je gagne plus cher sur la journée. Et du coup, eux, ils sont contents parce que c'est juste une journée. Et tu te dis, je veux le mettre dans mon offre parce que je peux le faire aussi. Après, tu as l'implant où tu restes longtemps. Tu te dis, bon, bah, je gagne un peu moins, mais c'est tous les vendredis, donc c'est chouette. Et c'est là que tu te dis, à la fin, en fait, mon site, il va ressembler à ça avec l'offre. Exactement comme la téléphonie et toutes les offres, etc. Le pas cher, le moyen cher, le super cher. Mais ça, parfois, en fait, tu vas faire de la théorie et ça n'existe pas ou tu n'as même pas l'idée. Et en fait, tu vas l'inventer à ta mesure en fonction de ce que tu as fait. Donc, une fois que tu es lancé, c'est là que tu apprends, en fait. Ouais.
C'est vrai qu'au niveau des tarifs aussi, moi, je le vois auprès des élèves de l'académie, elles n'osent pas à chaque fois mettre, disent c'est trop cher, je ne peux pas le vendre à ce prix-là. Et en fait, la notion de prix est super importante dans le positionnement. Il faut être aligné avec le bon prix parce que pour certains clients, un prix va paraître peut-être trop cher, mais à ce moment-là, ce ne sont pas vos clients, ou alors pas assez cher. Parfois, quand on augmente ses tarifs, quand on augmente ses prix, ses honoraires, eh bien, on se rend compte qu'il y a plus de clients. Parfois. C'est hyper important d'être, je pense, d'avoir le bon tarif aligné avec son positionnement. On ne peut pas avoir un discours, parler de haut de gamme et de luxe et vendre à petit prix. Et inversement, on ne peut pas dire bon marché, promotion du siècle et vendre très cher. Et il faut vraiment avoir un prix aligné avec son positionnement.
Ça me rappelle un truc que tu m'avais dit, Marie, qui m'avait beaucoup marqué. C'était un de tes clients. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une vraie thématique aussi d'indépendant. Quand tu grandis et que tu veux être positionné d'une certaine façon, comment est-ce que ton positionnement doit aussi orienter tes recrutements? Et je me souviens de ton anecdote sur le sujet.
Ça, c'est aussi des choses dont je me suis rendu compte en les faisant. Donc, je travaille pour un glacier qui vient me voir en me disant « Moi, je vends des glaces, super, mais je vais être le Jacquemus de la glace. » Donc, ils sont venus me voir parce que du coup, comme je travaille dans la mode, ils se sont dit « Je prends une nana qui travaille dans la mode et pas dans le food. »
Malin déjà.
Et on va travailler là-dessus, que ce soit dans le positionnement, le branding, la plateforme de marque, etc. Et une fois que tu as fait ta plateforme avec ton storytelling, ton narratif, et que tu dis bah, « L'ADN visuel, elle doit être comme ci, comme ça », tu te dis « Ok, mais qui va faire le taf ?» Bah, qui va faire le taf? Des photographes. Sauf que quand tu fais de la food, tout le monde te dit bah, « Voilà, j'ai une liste comme ça de gens qui font du set design et de la photographie de food. » Normal, tu vois. Et j'ai tout le respect que je dois avec tous ces gens-là. Moi, j'ai dit bah, « En fait, je vais tout faire sauf ça. Je vais te prendre des photographes de mon réseau de mode. » Parce que si tu veux faire de la mode, le photographe de food, il va te faire du food avec cette lumière hyper éclairée. Ça va être très beau, ça va être très léché, mais ça va dire food. Toi, tu veux aller ailleurs, on va faire du Jacquemus. Donc, on regarde. Et c'est pas copier, hein. c'est s'inspirer pour comprendre la direction et le positionnement. Et tu prends justement même des rédacteurs, des concepteurs et des photographes de mode. Tu les briefes en leur disant ça, tu leur expliques. Donc c'est un peu nouveau, tu vas faire de la glace, ça va fondre, c'est pas du vêtement avec des filles. Mais tu vas le faire à ta façon pour justement avoir une identité, que ce soit sur les newsletters, l'Instagram, etc., qui correspond à ce qu'ils projettent, qui correspond à leur positionnement. Et c'est assez marrant parce que tous les jours, on se dit, nous n'engageons pas sur Instagram, mais tous les wholesalers, tous les partenariats qu'on va avoir, toutes les collaborations regardent ça. Ils viennent nous voir en disant, vous êtes les seuls sur le marché à être comme ça, vous êtes premium, vous êtes luxe. Alors, dans le food, aujourd'hui, tu peux te positionner extrêmement cher. On voit la tendance avec les Cédric Rollet. Les
gens oui, et ces gens-là, finalement, moi, ce que j'entends dans tout ce que vous dites, c'est affirmer vos singularités. C'est vraiment ça, quoi. Mmh. Vous les identifiez, vous les affirmez et vous en faites un business plus viable que de tout prendre et de proposer ces services au plus grand nombre. En tout cas, c'est passionnant cet épisode sur le positionnement. C'est quoi votre meilleur conseil sur le positionnement pour finir?
Bon, être authentique.
Alexia?
Écouter sa petite voix intérieure et en général, c'est la bonne pour être là où il faut.
voix intérieure qu'on met souvent de côté, hein, en se disant oui, mais non, parce qu'en fait... Et puis à un moment, bah, t'as plus le choix, quoi.
Ouais.
Caro.
Je trouve que ce qu'on dit pas assez sur le positionnement, c'est que personne nous regarde. Je vois beaucoup d'entrepreneurs dire « Ah non, je ne peux pas changer mes prix. Ah non, si je refais ma landing page, mes 3 clients vont... » Et en fait, tout le monde se fout de ce que vous faites. Et je pense qu'une très bonne façon d'être un meilleur entrepreneur, c'est d'arrêter en fait, de penser que les gens s'intéressent à nous. Tout le monde se fiche de notre site. Personne ne regarde nos prix. Et si jamais un jour, il y a un problème avec un client, vous vous excuserez et en fait, on apprend comme ça. Donc moi, un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est lâche-toi la grappe, change tes prix, fais plein de tests et c'est comme ça que vous allez devenir meilleur.
Et même, j'irai plus loin et je pense que tu vas pas me contredire, votre positionnement avec des posts sur LinkedIn aussi.
Oui,
est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça réagit mieux, etc. Et arrêtez de penser que les projecteurs sont braqués sur vous, quoi.
Ouais, et que vous n'avez pas le droit de bouger parce que les gens ont plein d'attentes. Franchement, on s'en fiche. Donc éclatez-vous et faites des bizarreries, faites des chronotes en fait.
Marie,
demandez-vous pourquoi vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Et si vous ne le savez pas, regardez autour de vous, votre entourage vous le dira.
Top, que des bons conseils. Merci beaucoup à tous les quatre.
Merci à vous.
Merci.
Et merci à vous de l'avoir écouté ou regardé sur Spotify notamment, puisqu'on est aussi en vidéo. On se retrouve un jeudi sur deux avec un nouvel épisode. N'oubliez pas de le noter si vous l'avez apprécié. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badaud et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.